Radio Kapi.
Le journal, présenté par Billy Van Lutumba.
Critique contre agissement des rebelles du M23, manifestation de douleur et compassion pour plus de 7 millions de déplacés. En tout cas, Paola Gaviria, rapporteuse des Nations Unies aux droits humains, en charge des questions liées aux déplacés internes que vous suivrez en début de ce journal, est très affligée par cette situation critique. Ses interpellations et recommandations, c'est tout de suite sur Radio Kapi. Autre interpellation et dénonciation, c'est celle des populations de la ville de Bandundu. Depuis une semaine, la morgue de l'hôpital général de référence de cette ville est sans électricité. Vous vous en doutez bien, c'est la putréfaction des corps qui s'ensuit et des odeurs insupportables dans les alentours. Et comme invité de ce journal, Jean-Baptiste Dragiro, il est médecin-chef des zones de santé de Fataki. Il intervient dans ce journal pour nous parler des difficultés du fonctionnement des structures sanitaires et principale cause, c'est la situation sécuritaire peu réalisante. Eh bien, pour en savoir davantage, gardez les différentes fréquences de Radio Okapi pour suivre l'actualité du fin fond de la RDC et c'est tout de suite sur nos différentes fréquences. Bienvenue et excellentes conditions d'écoute à toutes et à tous. De partout où vous nous suivez en RDC, fidèles auditeurs, bonsoir. La rapporteuse des Nations Unies aux droits humains en charge des questions liées aux déplacés internes dénonce les conditions difficiles dans lesquelles vivent plus de 7 millions de déplacés internes en RDC, dont la moitié se trouve dans les provinces de l'Est du pays. Paola Gaviria Betancourt l'a déclaré vendredi lors d'une conférence de presse à Kinshasa après une tournée dans les zones affectées par le conflit. Lors de cet échange avec la presse, elle a déploré que ces personnes victimes des conflits soient confrontées à une diminution de l'assistance humanitaire ainsi qu'à des violations de leurs droits. Abordant la situation en Nord Kivu, elle a critiqué la décision prise par les rebelles du M23 qui oblige les déplacés vivant auparavant dans les camps autour de Goma à regagner leur village sans tenir compte de leurs besoins. Elle appelle les autorités congolaises à multiplier les stratégies pour protéger les civils. Paola Gaviria, Betancourt et Tomiko de Ronelli Timbonera.
Le gouvernement a la responsabilité prioritaire de prévenir, de protéger, de répondre à les droits humains des personnes déplacées internes. Parce que la souveraineté vient avec des responsabilités. Et ça, c'est les premières responsabilités d'un État. On sait, il est en train de trouver la paix. Ça, c'est très important. Ça, la première responsabilité des présidents du pays, c'est de chercher l'arrêt des souffrances de la population. Et la seule manière que le Congo a aujourd'hui pour arrêter la souffrance de la population qui est déplacée à l'intérieur de son pays, c'est la paix. Alors, on est très encouragé de voir que ça est en train de passer. Mais aussi, le Congo a d'histoire de frustration de ce processus. Alors, on encourage les parties du conflit de rester dans les différents processus pour que la paix puisse arriver à DRC et tout.
Autre situation critique toujours en République démocratique du Congo, OCHA alerte sur la hausse des violences sexuelles dans l'est du pays. Les humanitaires ont signalé plus de 67 000 cas de violences sexistes entre janvier et avril de cette année seulement. Cela représente une augmentation de 38% par rapport à la même période l'année dernière. Seulement 58% des victimes des cas documentés ont reçu des soins médicaux appropriés dans le délai critique de 72 heures. C'est ce qu'indique le rapport du secrétaire général de l'ONU dans son briefing d'hier jeudi à New York. Plus de détails avec Greta Lulendo.
Plus de 90% des cas signalés à l'échelle nationale se trouvent dans les provinces de l'Est touchées par les conflits où la réponse est encore entravée par l'insécurité et les réductions de l'aide. Selon nos partenaires du secteur de la santé, plusieurs établissements de la santé de la province du Sud Kivu sont confrontés à une pénurie de kits de prophylaxie post-exposition, principalement en raison de contraintes sécuritaires, précise Stéphane Dujarric. De plus, plusieurs de nos partenaires impliqués dans la lutte contre les violences basées sur le genre au Sud Kivu ont fermé leur programme depuis mars en raison de réduction de l'aide. Dans le seul territoire d'Uvira, au Sud Kivu, les autorités locales ont recensé plus de 100 cas de violences sexuelles entre février et avril 2025 et de nouvelles attaques ont été signalées en mai, rapporte le porte-parole d'Antonio Guterres.
Nous allons nous rendre à présent dans la ville de Bounia, province de Litouri, pour parler de ce contingent bengladais de la MONUSCO qui a remis hier jeudi des vivres et plusieurs autres biens à l'orphelinat Saint-Kizito au quartier Modipela dans la province de Litouri. Cette initiative vise à améliorer les conditions de vie des enfants orphelins souvent confrontés à plusieurs défis dont le manque des médicaments et des nourritures. Reportage de Bilo Bahati rendu par Ezekiel Mousalia.
Ce don est composé entre autres des jouets, des nourritures crues et préparées, un lot de différents médicaments essentiels. Cette action s'inscrit dans une série d'initiatives humanitaires menées par les contingents bangladais de la MONUSCO. La directrice de l'orphelinat Saint-Kizito, la sœur Immaculée Mandessi, exprime sa gratitude.
Nous les remercions beaucoup pour tout ce qu'ils ont fait. Aujourd'hui, c'est leur journée mondiale. On a fait état avec eux. Grand merci.
Le commandant des casques bleus bangladais a déclaré que cette dotation s'ajoute à plusieurs autres interventions de la MONUSCO à cette structure. Il cite notamment la campagne médicale et la remise des médicaments au centre de santé de Kasegwa en faveur des enfants et des adultes malades. Le capitaine Hassan Rana.
Nous sommes venus apporter notre assistance à l'orphelinat Saint-Kizito. Nous œuvrons pour le bien-être des enfants, véritable symbole d'espoir pour l'avenir de la RDC.
L'orphelinat Saint-Kizito héberge à ses jours une centaine d'enfants qui bénéficient régulièrement du soutien de la MONUSCO. Bounia, Ezekiel Mousalia, Radio Okapi.
Nous vous accueillons à Chata, chez nous, soyez.
À présent, nous parlons de ces conditions à risque dans la ville de Bandundu. L'hôpital, l'unique morgue de cet hôpital qui se situe dans l'enceinte de l'hôpital général de référence de cette ville ne fonctionne plus depuis près d'une semaine. Cela à la suite d'une panne technique qui est survenue mettant cette morgue à l'arrêt. Situation qui pénalise les paisibles citoyens de la ville qui peinent à conserver les corps de leurs qui décèdent. La société civile qui alerte déplore la putréfaction des corps et redoute les risques sanitaires qui peuvent découler d'une telle situation à la suite des odeurs nauséabondes qui indisposent les riverains qui s'en plaignent. Irène Baume.
Huguette Pumbu est la coordonnatrice provinciale de la nouvelle société civile du Kwilu. Face à l'arrêt des activités de la morgue de Bandundu, elle réagit comme suit.
C'est ce que nous déplorons. Nous avons deux morgues. L'autre était déjà tombée à panne. Personne n'a songé de réparer ça. Et maintenant, l'autre qui était restée est tombée à panne. Alors nous demandons au gouverneur de la province de puisse récupérer la morgue, que le directeur de l'hôpital puisse continuer à gérer.
Pour sa part, Bernadette Kindumba, membre du cadre de concertation provinciale de la société civile du Kwilu, parle de la gestion de cette morgue de la part de la mairie de Bandundu.
Dans la grande ville, la mairie reçoit des recettes que tu ne peux même pas imaginer. Mais nous nous étonnons où va l'argent de ce qu'on perçoit à la morgue de Bandundu. La population risque de tomber malade à cause des corps décomposés.
Contactée à ce sujet, Madame Véronique Mukanda Kafuti, maire adjointe de Bandundu, rassure en ces termes.
La morgue a connu une panne. La population soit calme. On est en train de réparer en attendant qu'un nouveau moteur arrive.
À ce jour, plusieurs dépouilles mortelles quittent Bandunduville jusqu'au village Bendela à 37 km pour leur conservation dans une morgue de la place. Irène Mboma, Bandunduville, Radio Okapi.
En plus bref, à Kalemie, la SNEL a rétabli l'électricité dans la soirée de ce jeudi. La ville était plongée dans le noir pendant une semaine à la suite d'une panne survenue à la centrale hydroélectrique de Bendera. Cette situation a paralysé plusieurs activités dans la ville de Kalemie. Le manque du courant a provoqué aussi la pénurie de l'eau potable de la régie des eaux. Conséquence, la plupart des habitants sont contraints de recourir à l'eau non traitée de la rivière Lukuga et du lac Tanganyika. Nous allons changer de chapitre et nous nous rendons à présent dans la ville de Lubumbashi. Les agents de la police nationale diligent aux frontières dans le Haut-Katanga demandent l'annulation des derniers arrêtés signés par le ministre de la Santé. Selon la délégation syndicale de ce service qui a rencontré mercredi le ministre provincial de la Santé et le président de l'Assemblée provinciale pour déposer leur mémo, ces arrêtés n'ont pas de nature à favoriser, entre autres, le bon climat de travail. Dans cet extrait sélectionné par Jean Gandou, Zéphi Mwamba, Congolo, qui a lu ce document, revient sur certaines exigences.
L'annulation de l'arrêté ministériel numéro 1250 du 11 avril 2025 fixant le taux de frais d'intrant, des désinfectations et des insectisations, des contaminations et des ratisations de moyens de transport aux frontières visant la perception de frais vers un compte national intitulé Ministère de la Santé PNHF au détriment du compte officiellement reconnu par l'IGF et les comptes de la province où tout est constaté et liquidé. 2. L'annulation de la commission d'affectation collective du 8 mai 2025 qui vise l'exécution de l'arrêté ministériel ci-évoqué portant en son sein les détournements dont les signataires et les chefs d'orchestre en remplacement de notre vaillant coordonnateur qui a si relevé les défis de ce programme. Nous exigeons aux autorités de nous accompagner dans ce processus socio-professionnel afin de préserver la paix.
Et pendant ce temps, les administrateurs du territoire de la province de la Tchopo et leurs assistants réclament à cor et à cri leur prime de fonctionnement du dernier trimestre de l'année dernière. Selon eux, leurs collègues d'autres provinces ont déjà touché la leur. Ils en veulent pour preuve les messages qui leur sont envoyés par leur agent payeur Trust Investment Development pour passer et retirer leur dû. Curieusement, le même agent leur fait marcher depuis plusieurs semaines. Ils sollicitent l'implication des autorités provinciales afin de résoudre durablement cette situation. Explication avec Jacques Moukonkole.
La plupart des administrateurs de cet territoire et leurs assistants attendent leur prime de fonction depuis environ 2 mois ici à Kisangani. À la microfinance, leurs agents payeurs ont leur brandi un seul mois de prime alors qu'ils touchent une enveloppe cumulée au terme de chaque trimestre. Chose curieuse, l'agent payeur ne leur présente pas de listing. Médard Elongué, AT d'Opala, fustige cette attitude intrigante.
Nous sommes avec les collègues des administrateurs, moi je suis d'Opala. Mais maintenant qu'on est arrivé ici, il n'y a pas d'agent, alors que le président de la République a songé nous mettre dans nos droits que l'on puisse délocaliser la prime des administrateurs de cette banque s'il n'y a pas du sérieux.
Ces cadres territoriaux ne sont pas les seuls à se plaindre. Beaucoup d'enseignants et des directeurs d'école courent derrière leur salaire de février, mars et avril sans succès. Gérard Losseya, directeur de l'EPO Nyerokula, et ses enseignants sont venus du PK 112 sur la route Lubutu. Depuis environ un mois, ils ne sont nourris que des promesses.
Je suis ici des 3 semaines, vieux aujourd'hui, demain, passé, samedi, lundi encore je suis ici, on me dit toujours de patienter.
Contacté, le responsable de la TDI n'a pas voulu répondre à la presse. Il s'est contenté d'affirmer tout simplement que tout est réglé sans d'autres précisions. Jacques Moukonkole, Kisangani, Radio Okapi.
Et dans le centre du pays, début ce jeudi en Mbujima, il y a des activités de 20 femmes bénéficiaires du programme chez Leeds Ndeke de la Fondation internationale pour les systèmes électoraux IFES. Ce programme qui s'étale sur 6 mois vise à accroître la participation politique et électorale des femmes à travers la formation, le mentorat et le coaching. Ce jeudi, une femme bénéficiaire de ce programme a mené en présence du maire de la ville une sensibilisation sur l'inclusion de tous dans les processus électoraux à l'intention des plus de 100 chefs des ménages et des leaders d'opinion de la commune de Lakanchi. Et avant de passer à la page internationale, d'abord cette nouvelle dans le Maniema. Clôture vendredi 30 mai des travaux des journées des réflexions sur la gouvernance minière. Les participants réaffirment leur engagement à travailler ensemble pour une gouvernance minière responsable, inclusive et durable, condition essentielle pour que le secteur minier contribue effectivement au développement durable et à prospérité de la province du Maniema et ses populations. À l'issue de ces assises, plusieurs recommandations ont été formulées, dont la restauration de l'autorité de l'État et la dépolitisation de la gestion du secteur minier, lutter contre la corruption, la fraude, les favoritismes et les mauvaises pratiques dans la gestion des titres miniers. Shadrack Tamboué-Londé, rapporteur, revient ici avec des recommandations au micro de Florence Kizalunga.
Intégrer systématiquement les priorités minières et les besoins des communautés impactées dans les plans de développement provinciaux et locaux. Réaliser une cartographie exhaustive et actualiser des groupes armés présents dans chaque territoire du Maniema afin d'identifier les zones à risque. Démilitariser les sites miniers et mettre fin à la présence des groupes armés, milices et services non essentiels, tout en promouvant la médiation et la résolution pacifique des conflits. Simplifier et clarifier la fiscalité minière, supprimer les taxes illégales et améliorer la transparence dans la collecte et l'affectation des recettes minières. Encourager l'investissement industriel et la modernisation du secteur. Sanctionner de manière exemplaire les acteurs impliqués dans la corruption et renforcer les contrôles sur la fiscalité minière. Exiger l'élaboration, la signature et la mise en œuvre effective des cahiers des charges entre les entreprises minières et les communautés locales avec un suivi indépendant et participatif.
Actualité internationale.
Les violentes pluies qui se sont abattues sur la ville de Mokwa dans l'état de Niger au Nigeria ont fait au moins 25 morts et laissé plusieurs personnes portées disparues, ont annoncé jeudi les services d'urgence. Les inondations survenues après un orage tard mercredi ont submergé ou détruit plus de 50 habitations, forçant des dizaines de familles à fuir les eaux déchaînées. Une dizaine de personnes restent introuvables. Parmi les rescapés, une femme et ses deux enfants ont été hospitalisés pour blessures et chocs traumatiques après leur sauvetage par des plongeurs et des bénévoles.
L'invité.
Dans le territoire des Djougouan-Itouri, la zone de santé de Fataki est confrontée à un défi sécuritaire depuis quelques années. Une situation qui affecte sensiblement le bon fonctionnement des structures sanitaires dans la zone. C'est le cas de l'hôpital général de référence de Fataki qui vient de reprendre les services après un mois et demi de fermeture à cause de l'insécurité permanente dans la zone. Docteur Jean-Baptiste Dragiro, médecin chef des zones de santé de Fataki, est notre invité. Il s'entretient à ce sujet avec Sadiq Aboubakar.
Docteur Jean-Baptiste Dragiro, bonjour.
Bonjour.
Est-ce que l'hôpital général de Fataki a repris normalement ses services?
Oui, nous avons repris tous les services des paquets complémentaires d'activités de l'hôpital général de référence, d'autant plus que nous enregistrons des retournées et nos personnels également sont retournés pour le travail. Il y a de cela un mois et demi que nous avons repris le travail.
Avant ça, vous aviez connu une interruption de combien de temps et c'était dû à quoi?
Nous avons connu une interruption de 45 jours suite à l'insécurité dans la région. Nos personnels ont été vandalisés de par leurs habitations et leurs logements. Donc, ils ne pouvaient pas travailler dans cette sécurité. Ils passaient une nuit à l'hôpital et l'hôpital n'a pas été touché.
L'hôpital n'a pas été touché. Non. Qu'est-ce qui explique cela? Pourtant, toute la zone était presque victime des atrocités.
Bon, il y a eu quand même un minimum de services de sécurité qui a dû sécuriser l'hôpital, notamment l'armée congolaise et la MONUSCO à travers leurs patrouilles. Et ils nous avaient aidé suffisamment à protéger l'hôpital.
Donc, aucune infrastructure de l'hôpital, ni les biens de l'hôpital n'avaient été touchés.
Non.
Pendant cette période, quel était le sort des malades? Qui était ici en hospitalisation?
L'environnement était vidé de sa population. Donc, nous avions à organiser les activités des urgences au centre de référence de Boule et au centre de santé de référence de Pimbo, où la population s'était réfugiée majoritairement.
Alors, aujourd'hui, vous avez repris, vous dites, avec tous les services de l'hôpital, quelles sont les difficultés auxquelles vous faites face depuis la reprise?
La fréquentation est pratiquement faible, quelle que soit la gratuité des soins que nous appliquons, en dépit aussi des médicaments que nous avons. On voit un retour timide de la population dans la zone. Nous estimons qu'à partir du moment où il y aura la stabilité, le service sera suffisamment fréquenté. C'est peut-être ça.
Vous avez annoncé également que l'hôpital a quand même bénéficié de l'eau, des médicaments, et c'est de la part de qui?
Oui, nous avons suffisamment de médicaments de la part de Memis à Belgique à travers Caritas. Nous avons aussi les médicaments des programmes des Fonds mondiaux pour la lutte contre le paludisme, le VIH et la tuberculose. Nous sommes suffisamment outillés pour la prise en charge des malades.
Quelles sont les pathologies, docteur, qui sont fréquentes dans la zone de santé de Fataki?
Nous enregistrons une fréquence très élevée actuellement des maladies d'origine hydrique. Il y a aussi la pneumonie. Vous voyez, la population vit dans les sites des déplacés. Il y a les infections respiratoires aiguës aussi qui augmentent des fréquences dans la zone.
Et en termes de prise en charge, il n'y a pas de difficultés?
Non, il n'y a pas de difficultés. Nous sommes outillés par rapport à ça.
Et au-delà de ça, la situation des enfants de manière particulière?
Nous prenons en charge gratuitement les enfants de 0 à 59 mois. Nous prenons aussi en charge gratuitement la prise en charge des femmes enceintes et des accouchements avec tout ce que nous avons comme partenaires qui nous viennent en aide, notamment Save the Children et MEDER, ainsi que MEMIS à Belgique.
Est-ce que cette prise en charge gratuite a quand même un impact sur la santé des enfants au sein de la communauté?
Oui, ça a un impact. Il y a la réduction de la mortalité maternelle et fatale durant la période où nous avons commencé à travailler.
Quand vous parlez de réduction de mortalité maternelle et fatale, est-ce qu'on peut avoir des statistiques comparatives?
Oui, par exemple, en 2000, à 2023, nous avons enregistré plus de 12 décès maternels. Mais vous voyez, à 2024, nous n'avons enregistré que 2 décès maternels dans nos structures hospitalières. Ça joue. Et puis, vous allez voir que le taux des décès infantaux juvéniles a été réduit durant la période de 9% à 4%. C'est quand même beaucoup.
Alors, de manière générale, docteur, dans la zone de santé des Fataki, quel est le problème auquel vous faites face?
Les problèmes auxquels nous faisons face, c'est plus la sécurité. Je pense que si on nous sécurise, on peut mieux travailler. Nous avons aussi des problèmes liés aux équipements et infrastructures. Parfois, nous avons des infrastructures intervêtistes et les équipements ne sont pas suffisants pour assurer des santé d'une façon holistique.
Parlant des infrastructures au niveau de l'hôpital général de référence ou bien dans des centres de santé?
Aussi bien au niveau de l'hôpital général de référence que dans les centres de santé. Les centres de santé sont faiblement équipés. Il y a des centres de santé qui ont été vandalisés. Je peux les citer. Vous voyez les centres de santé de Njougou, ça c'est récemment. Les centres de santé de Douvire, récemment aussi. Et il y a d'autres centres de santé qui fonctionnent dans les sites des déplacés et qui n'ont pas assez d'infrastructures pour une bonne prise en charge des malades.
Docteur Jean-Baptiste Trajuro, merci.
Merci à vous.
Et voilà comment se referme cette édition de journal préparée par Alain Hérung, Jacques-Yves Molima et l'ensemble de toute la rédaction. Debs Vita a assuré la prise des sons et la mise en onde et Billy Van Loutenois vous l'a présenté. Au nom de toute cette équipe, je vous dis sincèrement merci pour votre attention soutenue.